Le journal de Mathieu Schaffner.
Bonjour, le bois est dans tous ses états, la demande explose, les prix aussi, mais les entreprises peinent à suivre la cadence, le marché est perturbé et le coronavirus n'y est pas totalement étranger. L'Union européenne veut un accord complet, stable et cohérent avec la Suisse, déclaration de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Elle accueille le président de la Confédération Guy Parmelin à Bruxelles. On fait le point sur cette rencontre dans ce journal. Pas de contact avec les cyclistes, mais du spectacle. Malgré tout, le Tour de Romandie va se courir dans une bulle sanitaire la semaine prochaine. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme des organisateurs de l'étape qui sillonnera les routes de l'Arc jurassien. Le soleil règne en maître dans le ciel de la région, un règne qui va se poursuivre durant le week-end. Le mercure pourrait atteindre les 20 degrés en pleine, jusqu'à 17 sur les hauteurs. La mode est au bois dans la construction à tel point que les entreprises de la filière peinent actuellement à suivre la cadence de la demande. La problématique s'applique d'ailleurs à l'ensemble du secteur de la construction. Différents matériaux n'arrivent plus dans les entreprises, ce qui perturbe le marché. Cette situation est en partie liée à la crise du coronavirus. Explication avec Jérémy Pignard.
Depuis quelques années, tout le monde veut du bois dans ses constructions. C'est la tendance, surtout dernièrement. Mais quand la demande augmente en période de crise, ça coince, comme l'explique Jonathan Gurba, directeur commercial de l'entreprise Artibois à Hall.
Ceci impacte en fait des usines qui n'ont pas une capacité d'y répondre rapidement. Vous parlez du coronavirus. Son implication, elle est peut-être liée au fait que certaines usines sont en quarantaine et doivent, dans certains cas, arrêter des lignes de production. Et ceci peut impliquer que leur capacité à répondre à la forte demande est réduite.
Et ça provoque des retards de livraison, surtout en provenance de l'Allemagne et de l'Autriche. Un camion de panneaux de bois peut accuser jusqu'à 4 à 5 mois de retard. Pourquoi alors ne pas se tourner vers du bois suisse? C'est bien la priorité pour Jonathan Gurba, mais le problème est le même.
La difficulté est que certaines entreprises qui travaillaient au préalable avec des produits étrangers se sont tournées pour des difficultés d'approvisionnement et de prix vers les produits suisses. Et aujourd'hui, on constate que les produits suisses également sont très demandés et rentrent dans le même cadre que les produits étrangers et sont aussi en difficulté d'approvisionnement.
Et le problème est aussi le même pour l'acier ou encore les matériaux d'isolation. Conséquence, les prix augmentent. En fonction des catégories de produits, une flambée de 10 à 35% selon l'association dérivée du bois suisse. Une situation qui complique aussi le travail d'Alexandre Desboeuf, menuisier à basse-cour. Pas facile d'annoncer aux clients que le prix passé au moment de la commande n'est plus le même à la livraison.
Quand on remplit une offre et puis que le client nous adjuge le travail deux mois après, on doit lui dire qu'il y a une augmentation du matériel et puis que son offre n'est plus d'actualité. Et puis on doit trouver des arrangements, on doit prendre un petit peu chacun sur soi, quoi, hein. Lui, ma foi, il doit faire un petit effort puisque on est tous dans le même bateau. L'augmentation, elle est pour lui, elle est aussi pour moi. On essaie de trouver un arrangement dans ce sens-là, quoi.
Alors la filière tente de s'adapter. Ça commence par une vérification minutieuse des arrivages, selon Jonathan Gurba.
Chaque jour, dès que des camions arrivent chez nous, nous contrôlons si ce qui était prévu d'arriver est bien sur le camion. Et dans le cas contraire où la matériel n'est pas sur le camion, nous relançons nos fournisseurs et nous leur demandons de nous trouver des solutions pour obtenir le matériel le plus rapidement.
Heureusement, son entreprise, comme d'autres, ont pu jusqu'à présent résoudre certains problèmes grâce à leur stock. Mais si les difficultés d'approvisionnement perdurent, les retards pourraient encore augmenter. Jonathan Gurba y voit quand même un grand point positif. Si la demande flambe, c'est parce que tous les acteurs de la filière bois en Suisse ont un grand savoir-faire. C'est ce qui s'appelle être victime de son succès.
Walter Bio est également victime de son succès. L'entreprise de maraîchage bio basée à Mervelier sème, plante et pousse. Elle est d'ailleurs en pleine expansion. Elle a vu le jour il y a 6 ans et vient d'acquérir un nouveau terrain. 2 tunnels supplémentaires sont en cours de construction. Ces développements doivent permettre de meilleures rotations pour garnir les 210 paniers de légumes. Ils sont livrés hebdomadairement durant la belle saison. L'objectif est aussi de pouvoir satisfaire la demande de certains restaurants et marchés. L'équipe de Walter Bio profite cette saison pour s'activer entre semi-plantation et désherbage. Rencontre sur les hauteurs de Mervelier avec le responsable de l'entreprise, Lucien Fleury.
On est devant notre nouveau champ qu'on a depuis cette année, qu'on va mettre en culture dans les prochaines semaines. On a aussi nos moutons qui sont dans ce pré-là maintenant.
Et puis, vous êtes en train de construire de nouvelles serres également ?
Oui, alors on est en train de monter 2 nouveaux tunnels qui serviront tomates, concombres, aubergines. On va aller voir tout à l'heure.
Alors allons-y, je vous suis. Le tipi, là, ça fait partie de vos installations?
Oui, oui.
Mais vous y dormez?
Ouais, pendant les vacances, ouais, avec les enfants, des fois on dort, ouais. Ouais, ouais. C'est un peu... Bah, le terrain ici, il est à moi. Il était dans la famille, alors c'est pour ça qu'on s'est un peu plus installé ici. Comme on n'a pas repris d'exploitation au départ, on est parti de zéro, on a nos terrains qui sont un peu éparpillés autour du village.
Ah, vous avez d'autres terrains?
Ici, sur un terrain, on voit là-bas, derrière l'église, c'est aussi un champ qu'on a. À l'entrée du village, on a le dépôt avec une partie des champs autour. On a encore un champ à Montsevelier. Donc ça, c'est pas très pratique, mais on a fait avec les terrains qu'on trouvait, un peu au fur et à mesure. Donc là, on avait déjà 3 tunnels et maintenant on monte, c'est de nouveau ici. Il faut que ce soit fini début mai, quand les tomates arrivent.
C'est donc votre maraîcher qui est là?
Oui, c'est Arthur, le maraîcher, et puis Maïté.
Bonjour.
La formation.
Je piétine rien ici, on est d'accord? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
On est en train de creuser une tranchée pour pouvoir mettre un plastique qui va empêcher que l'eau et que les bêtes puissent rentrer dans le tunnel.
Aujourd'hui, c'est un temps idéal, j'imagine, pour travailler dehors. Première moitié du mois d'avril, c'était comment?
C'était pas les plus agréables. On a connu des meilleurs jours. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un temps idéal. Et puis, on espère que ça va continuer comme ça encore longtemps.
Ça fait 200 mètres carrés, un tunnel, c'est ce qu'il nous faut pour les tomates. Et l'autre, moitié aubergine, moitié concombre.
On peut aller voir ce qui pousse déjà, du coup, à cette saison?
Bien sûr, hein. Ah. Donc ici, on a des salades qu'on commence à récolter. On a des fenouilles qui seront prêtes encore peut-être 2-3 semaines. Là, on a des radis pour faire des bottes. Au fond, là, on a les choux-fleurs qui seront prêts aussi, je pense, entre mi-mai et fin mai. Voilà ce qu'on a dans ce tunnel ici. Et puis à côté, on a des carottes qui seront plutôt pour le mois de juin.
Ah ouais, les petites carottes.
Donc
quoi.
Ça, c'est les semis de carottes. Au milieu, c'est fini. C'était du cresson et de la doucette, mais ça, c'est terminé. Et puis tout au fond, là-bas, les lignes qu'on voit, ça, c'est les plantons de poireaux. On fait un semis direct en terre et puis on les laisse pousser. Ça va être au mois de juin qu'on va les reprendre là pour les planter dans le champ. Et puis là, on a encore les choux pointus et puis là-bas, les oignons en bottes.
C'est des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir mis en avant dans les grandes surfaces. C'est un choix que vous faites aussi?
Ouais, avec un système de paniers et d'abonnements, il faut quand même pouvoir faire des paniers variés. Donc nous, on fait plus de 70 sortes de légumes différentes. Ouais. Et puis, c'est intéressant de cultiver beaucoup de sortes de légumes aussi pour nous. Non, mais ouais, il y a pire comme cadre de travail.
Il y a pire, ouais.
Un reportage apprécié par Léonie Adrevert dans Les Jardins de Valterbio. C'est une rencontre très attendue dans le dossier de l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, est arrivé ce matin à Bruxelles. Il s'entretient en ce moment avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les discussions ont démarré vers 10h. Elles portent sur l'avenir de ce texte, jugé lacunaire par de nombreux secteurs en Suisse. Les Européens seraient prêts à faire des concessions, même s'ils commencent à s'impatienter. Les précisions de notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.
En accueillant Guy Parmelin à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne a rappelé le souhait de l'Union d'avoir avec la Suisse un accord complet, stable et cohérent. Les deux présidents veulent tirer le bilan des 3 derniers mois de négociations sur les 3 dossiers clés. Il y a d'abord la question de la liberté de circulation et de résidence ou de citoyenneté, sur laquelle les Européens affirment avoir donné des garanties sans plus de précision. Viennent ensuite les salaires et le travail à distance, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement qui comprennent aussi la protection sociale. Sur ce point-là, les mesures de protection des salaires demandées par la Suisse serait apparemment acceptable pour la Commission européenne. Le dossier des aides d'État pourrait en revanche tout bonnement disparaître. La Commission serait prête à l'abandonner du fait de l'impasse des négociations. Mais la principale pierre d'achoppement est peut-être la question des règlements des différends, car comme pour la négociation du Brexit avec le Royaume-Uni, la Commission continue à réclamer que la Cour de justice de l'Union européenne puisse avoir le dernier mot en cas d'échec des procédures de résolution des litiges, un véritable point de blocage. On est en tout cas dans les derniers mètres de la négociation, car la Commission demande maintenant à la Suisse une réponse rapide.
De Bruxelles, on se rend à présent à Strasbourg, où siège le Conseil de l'Europe. Le gardien du temps exemple des droits démocratiques observe la mise en place d'un passeport Covid à travers la planète. Sa création préoccupe aux quatre coins du globe. Tous les pays veulent développer un système qui puisse être interconnecté pour faciliter les voyages, mais chaque État fixera ses propres règles internes. Le conseiller national PLR neuchâtelois Damien Cottier suit ses travaux de près, lui qui est l'observateur en chef du Conseil de l'Europe.
Chaque pays va développer son propre système, mais il faut qu'il y ait une interconnectivité du système. Et ça, c'est ce que développe l'Union européenne. Et en principe, la Suisse est censée être intégrée dans ce système de l'Union européenne. Nous, sur quoi nous insistons au Conseil de l'Europe, c'est que l'utilisation au niveau des prestations nationales ne crée pas des discriminations graves entre les différents segments de la population.
Ceux qui refuseront d'être vaccinés, est-ce que ça va devenir des citoyens de seconde zone ?
C'est ce qu'il faut éviter, en fait. Si on n'a pas accès à un certain nombre de prestations d'importance qui n'est pas primordiale pendant un temps limité parce qu'on n'a pas pu être vacciné ou parce qu'on ne le souhaite pas, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement accepter. On vit avec des privations et des complications dans nos libertés depuis maintenant une année. Si quelqu'un qui ne souhaite pas se faire vacciner ne peut pas accéder à un festival de musique ou ne peut pas aller à la piscine publique, je ne pense pas que ce soit très problématique. Si par contre, sur une plus longue durée et sur des prestations plus essentielles, vous avez dans certains pays des personnes qui ne peuvent plus accéder, pensons à la formation par exemple. Alors là, vous créez des citoyens de seconde zone. Ça, ce serait inacceptable en termes de droits fondamentaux et c'est à ça que le Conseil de l'Europe veut veiller.
Et en Suisse, le Conseil fédéral prévoit l'émission de ce certificat Covid à la mi-juin. Décollage réussi pour SpaceX, la fusée qui transporte 4 astronautes dont le français Thomas Pesquet s'est envolé comme prévu ce matin à 11h49 du centre spatial Kennedy en Floride. Le voyage jusqu'à la station spatiale internationale doit durer environ un jour. Il s'agit de la troisième mission du genre pour SpaceX, ceci depuis que les États-Unis ont repris les vols habités vers l'espace par l'intermédiaire du groupe privé. L'armée russe a, elle, commencé son retrait des zones frontalières de l'Ukraine. Le ministère de la Défense l'a annoncé ce matin. Des dizaines de milliers de soldats y étaient amassés depuis des semaines, provoquant un regain des tensions internationales. L'Ukraine soupçonnait Moscou de préparer une invasion. La Russie a répondu en disant que ces manœuvres n'étaient que des réponses à des exercices de l'OTAN et à des provocations ukrainiennes.
Vous écoutez RFJ, il est 12h27.
Sport. Impossible de voir les rois de la petite reine lever les bras au ciel en franchissant la ligne d'arrivée. Les amoureux de cyclisme ne pourront pas approcher les coureurs sur le prochain Tour de Romandie. L'épreuve va passer une journée dans l'Arc Jurassien jeudi prochain avec une étape entre la Neuville et Saint-Imier. Mais Covid-19 oblige, la 74e édition de la boucle romande va se dérouler dans une bulle sanitaire. Le public pourra se disperser le long du tracé, mais pas dans l'aire de départ ni d'arrivée. Pas de quoi gâcher l'événement selon le président du comité d'organisation de l'arrivée à Saint-Imier, John Books.
Ce sera un grand jour de fête. De fête parce que malgré tout, on pourra aller applaudir les coureurs, même si ce n'est pas à l'arrivée, parce que l'arrivée reste toujours quelque chose d'extraordinaire. Qui va gagner ? Il y a 5 ans, à Saint-Imier, le premier qui s'est présenté sur la ligne d'arrivée au sprint était le Suisse Michael Albasini, qui aujourd'hui dirige l'équipe de jeunes Suisses. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est l'impact médiatique. On aura 1 heure en direct à la télévision où on verra les plus beaux coins de notre région, les Convers, les Pantins, Mont-Crozin et toute cette région. Et ça, c'est fantastique puisque environ 16 millions de téléspectateurs pour voir ce paysage.
Si le spectacle devrait être au rendez-vous, il a fallu ramer pour boucler les budgets. À la Neuville, 35 000 francs étaient nécessaires à la bonne organisation du départ d'étape. La présidente de son comité d'organisation, Catherine Friou-Auclin.
On a eu du mal déjà parce que c'était un petit peu compliqué. Donc presque la dernière ligne droite, on n'était quand même pas 100% certain que le tour aurait lieu. Et ensuite, certaines entreprises, certains artisans ici à la Neuville s'étaient engagés l'année passée à apporter leur soutien avant l'arrivée du virus. Et puis, cette manifestation reportée, ces gens ont connu vraiment des difficultés au niveau de leurs activités. Soit on ne les a pas sollicités, connaissant leur situation délicate, soit certains n'ont pas désiré confirmer leur engagement de l'année passée, ce en quoi on ne peut vraiment pas leur en vouloir. Mais on a d'autres qui sont arrivés, donc la balance, ce n'est pas complète, mais quand même.
Un dossier réalisé par Émilie Moumentaler, le Tour de Romandie démarre mardi prochain à Oron. Il sera donc de passage dans l'Arc Jurassien jeudi entre La Neuville et Saint-Imier. Et puis les championnats de football seront bouclés le 24 mai en Suisse, que ce soit la Super League ou la Challenge League. Les barrages de promotion-relégation devront quant à eux se jouer au plus tard jusqu'au 30 mai. Les clubs se sont mis d'accord sur ces modalités lors d'une assemblée générale extraordinaire. C'est un communiqué transmis aujourd'hui qui l'affirme. Au cas où les 36 journées ne pourraient pas être disputées en raison de la situation sanitaire, eh bien un classement au quotient de points fera foi. C'est ainsi que s'achève cette édition. L'information se poursuit en tout temps sur rfj.ch. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Très belle journée.
Merci Mathieu Schaffner. On passe à la météo et puis dans un instant, il y aura une naissance à vous annoncer. Une superbe journée avec un soleil radieux, un ciel souvent sans nuages, mis à part quelques petits cumulus sur les franches montagnes cet après-midi. C'est ce que nous annonce Météo News pour la suite et tout cela nous donne des températures maximales de 14 degrés aux franches montagnes et 17 en pleine. Demain et dimanche, ce sont des conditions bien ensoleillées avec quelques voiles d'altitude qui sont prévues avec le développement de cumulus au fil des heures, un cran plus étendu dimanche. Demain, il fera entre 17 et 20 degrés sur notre région et dimanche, ce sera quasiment pareil avec un mercure entre 17 et 19 au meilleur de la journée.